Chapitre 2. Une lumière discrète, des groupes de plantes aux larges feuilles, des toilettes simples et montantes, une douzaine d'hommes, les uns en habit noir, les autres tout bonnement en redingote, un léger murmure de conversation, l'aisance d'une réunion de famille, telle était la physionomie de la soirée de Madame Vandeuvre.
« Ah, c'est bien à vous d'avoir tenu parole !» s'écria celle-ci quand Rémy s'approcha d'elle pour la saluer. « Où donc est mon mari ? La nouvelle de votre retour a fait sensation, chacun meurt d'envie de vous accaparer. »
Tous les yeux s'étaient tournés en effet vers Rémy.
« Et voici Monsieur Colombe qui arrive à point nommé, » poursuivit la maîtresse de maison comme la porte venait de s'ouvrir. « J'ai un mot à lui dire, je vous l'amènerai tout à l'heure. » En attendant, mon mari vous mettra au courant de notre topographie. »
René Vandeuvre, l'étudiant qui jetait autrefois sa casquette par-dessus les moulins, était maintenant, au grand étonnement de Rémy, un homme grave et circonspect, légèrement chauve et qui semblait avoir dépassé la trentaine, bien qu'il fût encore loin d'y être arrivé. Il exprima à Rémy, en termes suffisamment chaleureux, le plaisir qu'il éprouvait à retrouver un ancien camarade, appuyant sur ce terme qu'il paraissait avoir choisi de préférence à celui d'ami. Il se réserve, et c'est fort naturel, quand on a une position naissante à sauvegarder, pensa Rémy. En 5 ans de vagabondage, je pourrais être devenu un mauvais sujet, un fumeur d'opium, ou pis que cela. Il garde sa distance jusqu'à plus ample informé. Et toutes les personnes dont l'estime a quelque prix suivront son exemple. Je suis loin de m'en plaindre. Je connais cette prudence pour laquelle mes concitoyens sont réputés. Si j'étais un violoniste quelconque en tournée de province, on me ferait un accueil autrement chaleureux, parce qu'il serait sans conséquence. On ne ménage pas les caresses à ces oiseaux de passage. Vis-à-vis de moi, au contraire, on craint de s'engager par des avances qui pourraient devenir regrettables. Les mères surtout se formeront en carré à ma seule approche. » Ce ne fut pas sans un sourire amusé qu'il constata l'exactitude de ses prévisions. Dans la partie masculine de la société, les jeunes, sans position sociale et sans responsabilité, parurent disposés à lui faire une ovation. Les gens rassis l'accueillirent avec cet intérêt bienveillant et questionneur qui n'engage à rien, mais qui pose les bases de futures conclusions. Quant aux dames d'un certain âge, elles se tinrent dans la ligne intérieure de leur fortification jusqu'à ce que Mademoiselle des Anges leur eût fait passer le mot d'ordre. Mademoiselle des Anges était le chef de file du clan autochtone. Ses qualités militantes, plus encore que son immense fortune dont elle répandait à pleines mains les revenus, lui avaient valu ce grade éminent. Elle faisait régner une discipline admirable dans le bataillon sacré qui, sur un signe d'elle, présentait à l'ennemi un front impénétrable ou montait à l'assaut d'un poste enlevé. L'arme au poing, métaphoriquement parlant, Mademoiselle des Anges gardait de toute atteinte profane le palladium des saines traditions. Pleine de sens pratique, d'activité, d'ardeur belliqueuse, elle ne connaissait la tiédeur en rien. Tout ce qui touchait son cercle la touchait elle-même, sa vigilance était infatigable. Du reste, le pied de guerre ne lui déplaisait point, car elle avait cette bosse de la combativité qui s'efface, dit-on, chez notre génération indifférente. Mademoiselle des Anges était une petite femme maigre, à cheveux gris et dont les yeux bruns, fort beaux, vous regardaient avec une telle intensité qu'ils semblaient vous dévorer. Toujours en état d'ébullition ou d'explosion, elle était comparée par ses amis intimes à un paquet de poudre effervescente. Elle n'avait jamais trouvé le temps de se marier. Par contre, elle avait établi une légion de neveux et de nièces qui la tenaient en grande vénération. L'un d'eux, le plus jeune, était au nombre des invités de Madame Vandeuvre. Il venait de se faire présenter à Rémy et sentait naître en lui une juvénile admiration pour ce membre glorieux de la société d'étudiants à laquelle il appartenait lui-même. « Nous avons un banquet après-demain. » Tous les honoraires y sont conviés. Vous serez des nôtres, n'est-ce pas, et vous nous raconterez vos aventures. La bannière est fière de vous. Le président nous a lu quelques-unes de vos lettres. Vous devriez les publier. Ma tante est ici. L'avez-vous déjà vue ?
Rémy d'Orbe connaissait de vieille date Mademoiselle des Anges, qui, le voyant sans mère, avait même essayé de le prendre en main et de diriger sa jeunesse. Il lui avait récité son catéchisme, à genoux devant elle sur un tabouret en tapisserie, deux fois par semaine et jusqu'à l'âge de 8 ans. Un séjour dans le Midi, que Mademoiselle des Anges dut faire pour sa santé, avait interrompu ses instructions. Plus tard, l'énergique petite personne avait essayé de reprendre les rênes, mais elle lui avait toujours échappé. « Ma tante, dit le neveu en s'approchant du coin d'honneur où siégeaient les puissances féminines de l'Auneuve, voici M. Rémy d'Orbe qui est de retour d'hier seulement. Et très désireux de vous présenter ses hommages, acheva Rémy. » Les yeux bruns, dont tout l'Auneuve redoutait la clairvoyance, se fixèrent sur lui. « Quand donc aurez-vous fini de grandir ?» s'écria Mademoiselle des Anges en lui tendant la main. « Vous avez 6 pouces de plus qu'à votre départ. Allons, asseyez-vous ici, que je puisse vous reconnaître sans télescope. Qu'avez-vous appris dans vos rôderies ?»« Qu'il n'est rien de pareil au sol natal. C'est la réponse obligatoire, n'est-ce pas ?»« Et j'espère qu'elle est sincère. Êtes-vous déjà installé ?»« Mes malles ne sont pas encore défaites. » Ne les ouvrez pas, j'ai peur de ce qui est dedans. Vous nous rapportez, je présume, un tas de notions nouvelles et de vanités. Oh, rien de plus dangereux que des cigarettes turques. Je vous défends d'en offrir à mon neveu. Il ne fume déjà que trop, le vaurien. Et dites-moi, par où commencerez-vous votre installation? Je me procurerai une chatte. Mademoiselle des Anges le regarda du coin de l'œil. « La vieille maison de la rue des Tissiers vous attend, » fit-elle à demi-voix. Rémy cessa aussitôt de se tenir sur la défensive, car une nuance subtile dans l'intonation de cette phrase lui avait rappelé le temps jadis. « Elle est trop grande pour moi, » répondit-il. « Mon intention est d'occuper seulement les pièces du premier étage où mon père se tenait habituellement. » Il se tut. Une émotion dont Mademoiselle des Anges lui sut gré se lisait sur son visage bruni. N'oubliez pas que je suis votre vieille amie et tout à votre service, dit-elle en posant une main belle encore sur le poignet du jeune homme. Rémy la regarda avec un sourire de gratitude. Ce geste maternel, ces boucles de cheveux gris, ce bonnet de dentelle dont les rubans lilas caressaient des joues blanches comme celles d'une nonne, il retrouvait tout cela au fond de ses souvenirs. « Le temps ne peut rien sur vous, dit-il. À mon âge, on ne change plus. D'ailleurs, je n'ai jamais été jeune, cela m'a épargné la peine de vieillir. Tenez, voilà M. Colombe qui, lui aussi, semble être né à 40 ans. » Dans un quart de siècle, il n'aura pas un jour de plus. » Elle fit signe à M. Colombe qui s'approcha. « Vous avez été presque camarade. Je compte sur vous, dit Mademoiselle des Anges, pour empêcher que M. Rémy d'Orbe ne se trouve dépaysé à l'Auneuve. Faites-lui achever son tour de salon tout d'abord, sinon l'on m'accusera d'accaparer l'illustre voyageur. » Comme les deux jeunes gens s'éloignaient du petit groupe, la voisine de Mademoiselle des Anges, une vieille dame dont le cou maigre était entouré d'un ruban de velours noir, sur lequel brillait une épingle d'émail, se pencha vers elle en disant de cette voix fortement accentuée des personnes sourdes « Ce jeune homme me plaît assez, chère mademoiselle, mais le croyez-vous sérieux ?» Dans la langue spéciale des cercles bien-pensants de l'Auneuve et d'ailleurs, « sérieux, au mépris du dictionnaire, ne signifie nullement grave, posé. Il signifie pieux, et cette épithète est à la fois un diplôme et un passeport. »« Je ne sais, » répondit Mademoiselle des Anges en riant et en mettant un doigt sur sa bouche, car un léger mouvement s'était produit dans son entourage, impatient de connaître le verdict sur lequel on allait se régler. « Je ne sais, à la première occasion, je le confesserai, » mais en attendant, je crois que nous pouvons l'accepter sous caution. » Ce mot d'ordre passa de bouche en bouche jusqu'à l'autre extrémité du salon. Les mères qui étaient là avec leurs filles jugèrent prudent de garder néanmoins une certaine réserve. Quant au reste de la société féminine, il s'abandonna aussitôt à l'attraction qu'exerçait la figure originale de Rémy et ce halo de mystère qui s'était formé autour de son nom pendant sa longue disparition. Chacune de ces dames savait que Rémy d'Orme avait eu des aventures palpitantes en Arabie, où il avait visité Pétra, la cité légendaire, la ville des tombeaux et des trésors cachés, en trompant la vigilance des tribus qui la gardent et en risquant sa vie dans cette entreprise. On savait aussi qu'il s'était joint à une expédition anglaise pour atteindre les grands lacs africains, que là, il avait été saisi d'une fièvre pernicieuse et soigné par un missionnaire. On brûlait de recueillir de sa bouche des détails inédits et de l'entendre confirmer ceux que l'on connaissait déjà. Quand on vit M. Colombe passer son bras sous celui de Rémy et emmener le jeune homme dans une embrasure reculée pour lui décrire avec minutie le fonctionnement d'une organisation de secours récemment fondée pour les orphelins, ces dames murmurèrent. En les écoutant, Mme Vandeur ne dissimulait pas un léger sourire de satisfaction. « Usez de vos droits, ma chère !» lui chuchotait sa voisine de gauche. « Faites la police de votre salon, pour l'amour du ciel! Ne voyez-vous pas que ce pauvre monsieur d'Orbe est tombé dans un guet-apens? C'est de vous qu'il attend sa délivrance !»« Monsieur Colombe a l'air si plein de son sujet !» répondit la maîtresse de maison. « Je n'oserais prendre sur moi de l'interrompre. C'est fort contrariant, je ne le nie pas, mais accordant encore quelques minutes à la philanthropie. » « Chaque chose en son temps, la philanthropie pouvait attendre. » « Monsieur Colombe est loin de montrer son tact ordinaire, il faut le reconnaître, » murmura la voisine de droite. « Songez donc, » fit une impétueuse jeune personne en saisissant les deux mains de Madame Vandeuvre. « Monsieur d'Orbe s'est sauvé de notre ville parce qu'il l'a trouvée abominablement ennuyeuse et voilà qu'à la première heure de son retour, on l'assassine d'une conférence humanitaire. » « Ma chère petite, vous oubliez un de vos articles de foi, » dit Madame Vandeuvre en riant. « Lequel ?»« Monsieur Colombe est impeccable. » La jeune personne haussa les épaules en faisant une petite moue. « Allons voir ce que font là-bas ces conspirateurs, » reprit Madame Vandeuvre en lui montrant un petit groupe composé de deux ou trois jeunes filles et d'autant d'étudiants qui parlaient à voix basse en jetant des regards peu tendres dans la direction de Monsieur Colombe. À l'approche de leur hôtesse, ils se turent comme des écoliers pris en faute. « Eh bien, jeune nihiliste, nous médisons des puissances établies, » fit-elle d'un ton qui n'avait rien de bien sévère. « Monsieur Colombe nous tient sur le grill. S'il était un simple mortel, on trouverait sa conduite très égoïste, très indélicate. » s'écria l'une des jeunes filles qui, en vertu de sa robe mi-longue et de ses tresses flottantes, avait encore le privilège de dire tout ce qu'elle pensait. « Il y a plus d'un quart d'heure qu'il tient Monsieur d'Orbe par le bouton de son habit. C'est intolérable. Il faut absolument faire une diversion. Moi, d'abord, je suis prête à tout. » « Voulez-vous que je m'évanouisse au milieu du salon ?»« Pauvre monsieur Colombe, si les oreilles ne lui tintent pas, il n'y a rien de vrai dans le proverbe, » fit Madame Vandeuvre. « À moins que vous ne teniez absolument à vous évanouir, ma chère enfant, je vous proposerai une diversion moins dramatique, mais plus facile à exécuter. Je donnerai à mon mari la mission de dégager peu à peu et avec douceur le bouton d'habit de monsieur d'Orbe. » Le jeune avocat, mis au fait de la situation, promit de faire son possible. Il se dirigea vers l'embrasure où se tenait ce tête-à-tête trop prolongé. « Voilà notre ami Vandeuvre qui arrive à point nommé pour corroborer mes assertions, » fit Monsieur Colombe de son ton mesuré. « Il est l'homme le plus au courant de la statistique de bienfaisance. » « après vous, cher monsieur, » dit l'avocat, « rendez-vous justice. » Monsieur Colombe s'inclina gravement. La solennité était l'essence de sa nature, le rempart de son amour-propre, le bouclier de ses petites faiblesses, son arme, sa force, son prestige. Elle était comme la haute margelle de pierre qui entoure un puits vide. Non que Monsieur Colombe fût un sot, il connaissait les limites de ses capacités intellectuelles. Cette science, un sot ne l'a jamais eue. Voyant que, malgré des études diligentes, certains domaines lui restaient fermés, M. Colombe prit de bonne heure la résolution de se faire une spécialité de la bienfaisance. Sa bonté naturelle, légèrement pompeuse et condescendante, l'y poussait d'ailleurs. Ses habitudes méticuleuses, son amour de l'ordre et du détail, le prédestinaient au rôle d'administrateur modèle. Il adorait la réglementation, la statistique, les registres, les calepins bourrés de notes, la correspondance officielle de comité à comité. Dans ce champ, il possédait une supériorité incontestable, il y rendait de très grands services, mais jamais il ne se hasardait une excursion au-delà. Cette règle, qu'il observait peut-être inconsciemment, faisait à la fois sa force et sa faiblesse. Dans son domaine, il était sans rivaux. Faisait-il un seul pas sur un terrain étranger, il se sentait mal à l'aise, inquiet, il se tenait sur la défensive, il craignait de laisser voir le défaut de sa cuirasse. C'est alors que sa solennité naturelle redoublait. Il s'enveloppait de silence et faisait le désespoir des maîtresses de maison qui cherchaient à l'entraîner dans une conversation générale. Ce qu'il redoutait le plus au monde, après le mal moral, bien entendu, c'était la plaisanterie. Il ne la comprenait pas et par conséquent la condamnait. L'humour était pour lui lettre close. Plus la raillerie était fine, plus il la jugeait coupable. Comme il s'appuyait sur de formidables autorités, au nombre desquelles étaient Saint-Augustin et Pascal, et qu'il ne cachait point sa désapprobation, il agissait ordinairement comme un éteignoir sur les conversations frivoles. Tout autour de lui s'étendait une zone de gravité. Au physique, M. Colombe était un petit homme qui se tenait très droit et ne perdait pas un pouce de sa taille. Il portait un lorgnon, son front commençait à se dénuder, mais était encore encadré par deux touffes de cheveux qui bouclaient gracieusement sur les tempes. Ses favoris étaient d'un blond clair et son teint rosé. M. Colombe se croyait la poitrine délicate. Il avait une façon à lui de tousser derrière sa main, puis de fermer les yeux une seconde, comme pour se remettre d'un coup intérieur. Sa santé le préoccupait et nécessitait une étude journalière du baromètre et du thermomètre. Il portait des galoches quand le temps était humide. Les dames de son entourage lui envoyaient des pilules antibronchitales. Les termes par lesquels Mademoiselle des Anges lui avait présenté Rémy étaient allés tout droit à sa conscience et il avait immédiatement pris à cœur de donner une base à cette existence qu'il jugeait frivole, agitée, inutile. C'était avec des intentions les plus louables qu'il retenait Rémy prisonnier dans ce coin solitaire. Il accueillit comme un renfort l'approche de M. Vandeuvre. « Je développai nos plans à M. d'Orbe, dit-il. » La main dans son gilet, les épaules rejetées en arrière, la poitrine bombée, il dessinait un contour qui justifiait si bien le vieux sobriquet de gorge de pigeon que Rémy faillit sourire. « Je me flatte, poursuivit M. Colombe, que cet exposé bref mais complet lui donnera une idée de l'œuvre et l'engagera à nous seconder. » M. Colombe a l'excellente habitude de battre le fer tandis qu'il est chaud, dit René Vandeuvre en se tournant vers Rémy avec un léger sourire. Son ton trahissait quelque embarras et un certain désir de se mettre hors de cause. « Je suis trop heureux d'être enfin considéré comme un membre sérieux de la société, » répondit Rémy. « Vous savez quel a été jusqu'ici le jugement de mes amis sur mon pauvre individu, propre à tout, bon à rien. » Cette expression est caractéristique, fit observer M. Colombe. Je suis très sûr qu'elle ne s'applique en rien à vous, M. d'Orbe, surtout dans sa seconde partie, mais elle pourrait trouver son emploi à l'occasion. Permettez que j'en prenne note pour m'en servir dans mon prochain rapport. Il tira son calepin de sa poche. À ce geste, un murmure fit le tour du salon. M. Colombe se met à scénographier, tout est perdu, s'écria la jeune révoltée aux longues tresses. Et notre ambassadeur qui est pris ? Ce qui me console, dit Madame Vandeuvre, c'est que M. d'Orbe n'a pas l'air de s'ennuyer le moins du monde. Bien au contraire, Rémy s'amusait infiniment. Il s'imaginait que ce tête-à-tête, qu'il prolongeait à dessein, contrariait les projets diplomatiques de Madame Vandeuvre. Il était résolu de se tenir à l'écart pour laisser M. Colombe briller de tout son éclat. Il ne pouvait savoir qu'à chaque minute, son étoile à lui montait davantage, tandis que celle de M. Colombe pâlissait en proportion. D'ailleurs, l'entretien commençait à le captiver. En face d'un homme absolument compétent dans sa spécialité, Rémy d'Orbe éprouvait toujours un certain respect. Il avait de plus le don bien moderne de s'intéresser à tout en amateur. Il n'était donc nullement disposé à s'enfuir par la tangente, comme René Vandeuvre l'y encourageait du regard, tandis que M. Colombe ajustait son lorgnon et s'apprêtait à enrichir son carnet d'une note précieuse. Il fallait brusquer la situation. Or, pour brusquer la situation, nul n'était comparable à Mademoiselle des Anges. Elle le faisait avec un brio et une désinvolture qui charmaient jusqu'aux victimes de ses exécutions. M. Colombe était un de ses grands héros, elle le citait volontiers en exemple, mais elle lui reconnaissait certaines faiblesses. Tout en faisant son tour de salon, comme un général qui inspecte ses troupes, elle remarquait fort bien que M. Colombe devenait impopulaire. « C'est votre faute, mes chers, dit-elle, vous l'avez gâté. Il faut maintenant que je vous le dégâte, n'est-ce pas? Vous avez fait de lui un petit sultan. Tous les défauts qu'il a, il les doit aux dames de l'honneuve. » Ayant dit, elle se dirigea d'un pas délibéré vers l'autre bout du salon. Le froufrou même de sa robe de soie avait quelque chose de martial. Elle fit un petit signe de tête à Rémy, et sans aucun égard, pour la période que le philanthrope était en train de développer, elle y coupa court. « Monsieur Colombe, dit-elle de sa voix nette qui tomba dans un grand silence, vous n'imaginez pas résumer la ville entière, je suppose. Monsieur d'Orbe a ici des concitoyens et des concitoyennes qui seront charmés de jouir aussi de sa conversation. » Là-dessus, elle prit le bras de Rémy et emmena sa conquête. M. Colombe, assez désorienté et sentant vaguement que la foudre était tombée sur sa tête, chercha refuge auprès de ses admiratrices les plus fidèles, mais il y trouva un accueil très froid qui lui fit mesurer l'étendue de ses torts. Le mal était fait. Rémy d'Orbe se tenait dans une réserve étonnante et paraissait résolu à ne pas se prodiguer. Venu assez tard, il s'éclipsa de bonheur, après avoir obstinément repoussé toutes les occasions qui lui étaient fournies de se rendre intéressant. Comme il allait franchir le seuil, après avoir pris congé de la maîtresse de maison, il remarqua une jeune fille d'une vingtaine d'années, assise non loin de la porte, dans une niche de verdure, entre sa mère et M. Colombe. Elle laissa tomber son éventail. M. Colombe, myope et distrait, ne s'en aperçut pas. Alors Rémy revint sur ses pas et ramassa l'éventail. En le recevant, la jeune fille devint pourpre et le saisit avec une telle précipitation qu'il lui échappa de nouveau. Elle se baissa vivement et, comme Rémy faisait à la même seconde le même mouvement, leurs têtes se heurtèrent de la façon du monde la plus ridicule. Après cela, il devenait urgent de se faire présenter. Rémy prit à M. Colombe de lui servir d'introducteur. Un échange de noms fort cérémonieux, « Monsieur Rémy d'Orbe, Madame et Mademoiselle Odel », quelques phrases polies de la mère, une inclinaison de tête presque imperceptible de la part de la jeune fille, et ce fut tout. Aucune des parties ne semblait désireuse de prolonger l'entretien. La réserve normale de Rémy et sa disparition au moment où l'on croyait enfin tenir l'oiseau rare furent la goutte qui fait déborder le vase. « Monsieur Colombe l'a mise en fuite. Il a senti qu'on cherchait à l'enrôler et pour garder ses coudées franches, il n'a vu qu'un moyen, il s'est sauvé. Le voilà en défiance. Qui sait si nous le reverrons jamais dans notre cercle ?» Ainsi, toutes ces dames menaient deuil avec de grands soupirs. Les étudiants se consolèrent à la pensée de rencontrer Rémy dans des agapes sans façon, entre hommes, comme il disait aux jeunes filles, en tordant une moustache fictive pour lui donner le pli qu'elle prendrait plus tard, quand elle pousserait. Quant à Madame Vandeuvre, elle distribuait son thé et ses gâteaux avec diligence, comme si les meringues et les petits fours eussent pu faire oublier à ses invités le désappointement dont elle semblait, du reste, prendre philosophiquement son parti. C'était elle qui avait finalement recueilli sous son égide l'infortuné M. Colombe. Pareil à un volant que les raquettes relancent sans trêve, il allait de groupe en groupe, partout repoussé avec perte, sentant pour la première fois les amertumes d'une défaveur générale. Madame Odel et sa fille venaient de se retirer. Il allait en faire autant, froissé au-delà de toute expression, mais cachant ses blessures sous un redoublement de solennelle froideur. Madame Vandeuvre le retint et, avec une dextérité toute féminine, retourna le poignard dans sa plaie. Sans aucune allusion trop directe, elle lui fit entrevoir l'abîme d'impopularité où il était tombé, la maladresse de sa conduite et les représailles que son clan offensé méditait sans doute. Or, s'il était une chose dont M. Colombe fut peu disposé à faire chrétiennement le sacrifice, c'était précisément cette position éminente, ce piédestal inapprochable qu'il avait édifié pierre à pierre et du haut duquel il pontifiait sur l'eau neuve. Madame Vandeuvre eut la douce satisfaction de le voir s'éloigner dans un état de parfait accablement, persuadée que tout était perdu, même et surtout l'honneur. Elle savait fort bien qu'un revirement ne tarderait pas à se produire en sa faveur dans tous les cœurs sensibles, mais elle n'avait eu garde de le renvoyer avec une lueur d'espoir. Pourquoi cette cruauté? C'est que Berthe, la fileuse, dans le secret de son âme, avait aspiré jadis à devenir Madame Colombe, avec tous les avantages attachés à ce titre. Une fortune en bonnes obligations lui paraissait plus tangible que les espérances d'un avocat dont l'étude sent encore le plâtre frais. Pendant plus de 3 mois, elle avait assidûment visité les indigents et s'était rencontrée sous leur toit avec M. Colombe, à l'adresse duquel elle avait improvisé plusieurs tableaux vivants, destinés à percer son cœur d'outre en outre, la bienfaitrice des pauvres, l'ange gardien penché sur des berceaux. Mais le sens artistique manquait apparemment à M. Colombe. Les attitudes les plus touchantes le laissèrent insensible et Berthe Lamier se résigna à accepter les hommages de René Vandeuvre qui, de son côté, avait en vain jeté sa ligne à de plus gros poissons. Tous les invités étant partis, les époux restèrent en tête à tête, Berthe paresseusement étendue dans un fauteuil, les pieds sur les chenets et son mari debout en face d'elle, à l'autre angle de la cheminée. Nous n'avons pas lieu d'être particulièrement fiers du succès de notre soirée, dit monsieur en tirant un de ses favoris. René, je t'ai déjà dit combien je déteste cette habitude que tu as de traiter ta barbe comme un cordon de sonnette. Quant à moi, je suis complètement satisfaite. Monsieur d'Orbe a tenu parole, nous avons eu l'étrenne de sa présence. Il s'est montré peu communicatif, c'est vrai, mais tu ne t'attendais pas, je suppose, à le voir monter sur une chaise pour nous débiter des hâbleries de voyageurs. Après le fâcheux incident qui s'est produit, Monsieur Colombe ne remettra plus les pieds dans notre salon, reprit monsieur. Je tenais beaucoup à lui. Bon, voilà que tu t'en prends de nouveau à tes favoris, s'écria madame. Sois sans crainte, mon cher ami, tant que Monique Odel viendra chez moi, on y verra Monsieur Colombe. Tu crois cela ? Fit son mari d'un ton rêveur. Si je le crois, mais laissons là les commérages. Ma persuasion intime est que notre soirée a fort bien réussi. Elle a eu du piquant et trouvera peut-être sa place dans une histoire qui s'appellera « Grandeur et décadence de Monsieur Colombe ». Son mari ouvrit de grands yeux. Elle se mit à rire, puis bâilla, et se levant, prit un des flambeaux de la cheminée en montrant du doigt l'aiguille de la pendule à son mari.